semaine après semaine pour cette émission. Et on débute en force cette semaine parce que ce matin, en fait, il y a déjà une petite heure, avait lieu le dévoilement de la nouvelle mise à jour du jeu Animal Crossing New Horizons, Nouveaux Horizons, pour la Nintendo Switch. Et les gens sont virés fous, on va dire ça comme ça. Parce que ça faisait longtemps, première chose, qu'il n'y avait pas eu d'annonce de Nintendo. Il avait disparu d'une certaine manière de... des éventuelles annonces qui pouvaient être faites. Et finalement, c'était pour une bonne raison. Donc si ça faisait à peu près 6 mois qu'on n'avait pas entendu parler des concepteurs d'Animal Crossing, c'était pour une bonne raison. Le 5 novembre prochain, donc déjà dans 3 semaines, on va lancer déjà l'ultime mise à jour d'Animal Crossing. Mais pour une simple et bonne raison qu'on lance tout en même temps. Donc si la première année de New Horizons, de Nouveaux Horizons sur Switch, on envoyait ici et là des petits contenus, un personnage supplémentaire, un événement supplémentaire, ben à la place, le 5 novembre prochain aura lieu la mise à jour vers la version 2 d'Animal Crossing, version 2.0, avec tout. C'est pas compliqué, ils ont tout mis dans cette mise à jour-là. Donc un personnage qui était demandé depuis extrêmement longtemps, Brewster, tout dépendamment de la version qui existe. Le pigeon qui tient café, le perchoir, Robusto, dans la version française, revient officiellement dans le musée de l'île. Donc Robusto Perchoir est de retour officiellement pour boire son café de pigeon. Et c'était à peu près ce qu'on savait qui avait été annoncé dans la dernière mise à jour. Le problème, c'est que ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire. On rajoute les invités Amiibo dans le café. Donc, on peut créer des mises en scène pour recevoir ses amis villageois. Autant que ceux qui jouent en ligne peuvent avoir des animations avec des gens, avec eux autres. Mais ça ne s'arrête pas là. On est allé chercher Amiral Cap'n pour nous amener sur des îles exclusives, sur son petit bateau. Donc, une autre mise à jour qui était prévue un moment donné, mais qui a été rajoutée. On va pouvoir voguer vers de nouvelles îles, ramasser du nouveau stock, ramasser des gyroïdes. C'est le retour des gyroïdes. Donc, les espèces de petits trucs qui bougent et qui sont la figure emblématique d'Animal Crossing qui n'avait jamais été ajoutée à ce moment-là. On les ramène. Donc, il y a souvent plusieurs formats. Fallait les collectionner dans les précédents jeux. Fallait les amener justement à Robusto. Là, ça n'a pas l'air d'être Robusto qui les collectionne cette fois-ci. Puisque l'île de Harve, donc l'île du chien, où on prenait des photos pour l'événement juin du mariage avec les deux lamas, a agrandi. Ils ont enlevé la barrière de cette île-là. Ça faisait pas de sens qu'il y avait une île où on pouvait exporter du stock seulement. Parce qu'il y avait une mise à jour un moment donné où on pouvait maintenant sur cette île-là renvoyer des items qu'on avait dans notre sac à la maison ou les vendre. Moyennant une certaine commission, mais quand même. Donc maintenant, cette mise à jour-là qui avait été faite l'année passée prend tout son sens. Puisque l'île qui a grandi, c'est que tous les autres visiteurs de nos îles vont se retrouver sur un terrain de camping. Donc, le vendeur de souliers, la vendeuse de tapis, le vendeur de pouces pour des fleurs, mais ça sera pas que des fleurs. Se retrouvent tous. Rounard est là, Red est là. Henriette, Shampoodle, est de retour. Elle va avoir des trucs exclusifs sur son île. Elle va pouvoir faire des coupes en plein milieu du camping. Ils ont réellement tout mis. C'est réellement ça. C'est Risette et Serge. Cyrus et... j'oublie le nom de la lama. Katrina, celle qui fait les prédictions de la diseuse de Bonaventure, Astrid, dans la version française, est de retour. Tortimer, pour aucune raison, il est sur cette île-là. tout le monde est là. C'est le genre de Ultimate Animal Crossing qui va être fait dans la mise à jour dans 3 semaines. Cette mise à jour-là, elle est gratis. Et c'est important de le dire. Parce que, c'est ça, on rajoute des cours d'aérobie le matin, on peut jouer avec les heures si on est du genre à jouer tôt le matin ou tard le soir. Donc, on peut influencer les personnages à ce qu'ils soient un petit peu plus présents. On rajoute des items pour ceux qui ont des billets Nook Miles, des billets de voyage pour des nouveaux items, un distributeur de clochettes, etc. On rajoute des clôtures, on rajoute des chansons de Kéké. Kéké la glisse. Kéké en anglais aussi. On rajoute des chansons avec le chien qui chante, des nouveaux items au magasin, les coiffures, je le disais. On rajoute la culture de légumes. On rajoute au complet le système de cuisine dans New Horizon. Possibilité de faire des recettes. Possibilité de réaménager ses maisons de manière différente. Donc, il n'y a plus d'espace où on ne peut pas accéder. Les espaces un petit peu plus serrés, le personnage peut s'y glisser quand même. Il y a des échelles permanentes. Comme je dis, on a tout mis. Et on le précise à la fin de la vidéo, qui a quand même duré 20 minutes, que c'est l'ultime mise à jour. Donc après ça, ça sera des mises à jour de finition, de stabilité, mais de mise à jour de contenu, comme il y a eu dans la première année et demie dans les Animal Crossing, jusqu'à cet automne pour la deuxième année, presque troisième dans Animal Crossing sur la Switch. C'est la version ultime. Donc, plutôt que de lancer une fois par mois un nouvel item pendant la prochaine année et demie, ils ont fait, c'est correct, ils ont assez attendu, on garoche tout le reste du jeu. Donc, tout ce qui aurait pu être au début d'Animal Crossing, selon les autres versions, parce qu'il y a des trucs là-dedans, c'est ça, qui sont apparus en cours de route, des personnages qui sont apparus en cours de route, qui n'étaient pas disponibles au lancement. Mais maintenant, on fait seulement la mise à jour finale. C'est vraiment ça, c'est vraiment le terme. Et à cette mise à jour finale se présentera, toujours le 5 novembre, un contenu téléchargeable, parce qu'on aime beaucoup les DLC depuis les 10-15 dernières années, et on rajoute Happy Home Paradise Animal Crossing New Horizons. Donc, un titre de 8 pieds de large, mais c'est surtout un clin d'œil à la version Happy Home Design qui était sorti sur la 3DS. On rajoute maintenant Happy Home Paradise. Donc, à même Animal Crossing New Horizons, on va partir au travail à partir de Dodo Airlines. On va maintenant pouvoir aller modeler selon les inspirations des personnages, des maisons de vacances sur mesure. On rajoute des systèmes de construction, on rajoute des demi-murs, on rajoute des poutres, on rajoute la possibilité de mettre deux murs de couleurs différentes. C'est une mise à jour d'envergure. Évidemment, c'est du contenu téléchargeable, du contenu additionnel, DLC. Donc, ce sera un coût supplémentaire qui n'a pas encore été annoncé, sauf erreur. Oui, il a été annoncé. Et évidemment, ce sera quand même un petit peu cher. Non, ça, c'est la mauvaise idée. Dans Happy Home Paradise, il y aura possibilité de l'acheter individuellement. Donc, si vous ne jouez qu'à ce jeu-là, par exemple, sur la Switch et que vous n'avez pas besoin, entre guillemets, des autres DLC de d'autres jeux, vous pouvez l'acheter individuellement au coût de 25 $ US, ce qui veut dire un 35 $ canadien assez facilement, toujours le 5 novembre. Sauf que, évidemment, Nintendo Online n'a pas dit son dernier mot. Et c'est un truc que je n'avais pas tout à fait bien saisi la dernière fois, puisque lorsqu'on avait fait le dernier Nintendo Direct, on avait annoncé que le 64 et le Genesis s'en venaient sur... le 64 virtuel et le Genesis virtuel s'en venaient sur le Nintendo Switch Online. Chose qui va arriver. Par contre, pour jouer à certains jeux succès du 64 ou de la Genesis, il faudra acheter le Nintendo Switch Online Expansion Pack. Donc, une passe mensuelle, une passe annuelle pour avoir accès à tous les contenus DLC de ses jeux préférés. Donc, il y aura le Nintendo 64 virtuel avec les Mario Kart et Mario 64. Mais si on voulait jouer à un jeu comme Pokémon Snap, il faut avoir l'Expansion Pack en à côté. Donc, au choix, on pourra acheter individuellement certains DLC ou se procurer la passe annuelle pour la modique somme d'un 50 $ supplémentaire US, mais on a accès à tout ce qui sera compris au fur et à mesure que l'année avance. Donc, si Animal Crossing a sa propre... son propre DLC dans l'Expansion Pack de la Nintendo Switch Online, rien ne dit que un moment donné, il pourrait y avoir les passes combattants de Super Smash Bros. Il pourrait y ajouter un moment donné les îles supplémentaires dans Pokémon Épée et Bouclier. Sait-on jamais? Pour l'instant, au lancement, à partir du mois de novembre, il y a la Genesis virtuelle, quelques jeux supplémentaires du 64 virtuel et Animal Crossing Happy Home Paradise pour Animal Crossing New Horizons. Donc, Nintendo se lance officiellement dans ses passes mensuelles, un peu comme le PlayStation Store le fait, un peu comme, en fait, surtout comme EA Games le fait depuis quelques années. Ce qui fait en sorte qu'on doit sortir notre gros argent encore une fois. Ou, dans le meilleur des... l'autre partie, pour l'instant, ça vaut pas la peine. 50 $ US, donc quasiment 70 $ canadiens pour jouer à Pokémon Snap et puis rajouter du contenu pour Animal Crossing, à moins d'avoir vraiment l'intention de jouer intensément à modeler des îles pour ses villageois, pour l'instant, ça vaut pas la peine. Mais éventuellement, plus qu'ils vont rajouter du stock dans l'offre en ligne, là, ça va valoir la peine. Mais pour l'instant, pour le lancement, jusqu'à date, pour $50 US, ça n'en vaut pas tant la peine. Mais, comme je le dis, si on décide de rajouter le contenu DLC de Splatoon, de Pokémon, de Smash, de Mario Golf, de Yoshi Crafted Island, si on rajoute ce contenu-là à même la passe à 50$ par année, là, ça va commencer à en valoir plus la peine. Mais si c'est seulement pour accéder à la Switch Online pour un 20-25$ par année et que c'est tout et qu'il y a des mois qu'on ne joue pas, pour l'instant, ça en vaut encore la peine. Quoique, s'il y a des mois auxquels vous ne jouez pas, vous pouvez suspendre votre abonnement aussi. Là. Vous n'êtes pas obligé de payer dans le vide un service qui ne vous sert pas plus que ça. Hein? Pour n'importe quel abonnement, en fait, en général, on devrait toujours on devrait toujours les activer seulement quand on prévoit s'en servir. Mais dans le cas de l'online, à 3-4$ par mois pour accéder aux services en ligne, c'est pas si mal. Faut jouer un petit peu quand même pour s'en valer la peine. Mais c'est pas si mal. Donc c'est pour ça que si on rajoute l'expansion pack pour un montant supplémentaire, ça va prendre énormément de titres pour que ça en vaille la peine. Pour l'instant, 3 jeux, 3 additions, 3 DLC, ce n'est pas suffisant pour justifier un 50 US par mois. Ben, en fait, ça revient quand même à 2-3$ par année. Non, un petit peu plus que ça. Ouais, ça revient à 60-70, fait que c'est comme un 5$. Ça, 5$? 5$. 5$ par mois. Fait que pour que ça en vale vraiment beaucoup la peine, faut avoir en tête de jouer beaucoup, de 1. Et ça va prendre un catalogue un petit peu plus étoffé pour qu'il soit complètement légitime. Il y a les abonnements familiaux aussi à $80 US pour que plus qu'une seule Switch ait accès à tous les contenus. Et ça commence à... Ça monte rapidement. Hein? Ça monte rapidement très cher. Donc, à surveiller, évidemment. Il risque d'y avoir d'autres annonces pour la Nintendo Switch Online Expansion Pack dans les prochaines semaines. C'est à surveiller. Qu'est-ce qui sera ajouté à ce catalogue-là? On débute l'émission avec Ariane Roy en musique avec Je me réveille. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Je me promets
De retour au deuxième service, Ariane Roy, qu'on vient tout juste d'entendre en musique. Mini chronique télévision, parce qu'on a dévoilé cette semaine que la 11e saison des Chefs prendra l'affiche sur les ondes de Radio-Canada. Truc majeur, par contre, c'est que Daniel Vézina ne sera pas de la prochaine saison. Tout le reste des intervenants y seront, par contre. Donc, Élise Marquis de retour à l'animation, Pascal Olivari, Normand Laprise, Pascal Olivari et... j'ai mélangé. Ça y est, je les ai tout mélangés. Jean-Luc Boulay, Normand Laprise, Pascal Olivari. Je pense que je les ai tous dit, mais dans le désordre. Bref, les juges seront de retour. Par contre, ce qui sera nouveau, c'est qu'il y aura une quatrième juge en la personne d'Isabelle Deschamps-Plante, ancienne gagnante de la série Les Chefs, qui se complétera le trio de juges. Donc, elle deviendra la quatrième juge permanente. Et pour succéder à Daniel Vézina, qui était le présent... non, il les a toutes faites. Depuis son rôle a un petit peu changé dans la saison maudite de Chantal Fontaine. Mais Daniel Vézina laisse sa place à Colombe Saint-Pierre, du restaurant du Bic, chez Saint-Pierre, situé au Bic, près de Rimouski, qu'elle se deviendra la nouvelle mentor des chefs. Donc, c'est elle qui donnera les consignes, donnera les cours à la fin de l'émission, les trucs et astuces de l'émission. Donc, pour une 11e saison, ce sera officiellement lancé, on l'espère, l'hiver prochain, ou en tout cas, l'annonce a été faite cette semaine. Changement de visage à la barre de l'émission a pour but de mieux refléter la place croissante des femmes dans la restauration de haute voltige, souligne le réseau dans un communiqué de presse. Les chefs qui voudraient tenter leur chance doivent visiter le site de l'émission et faire parvenir le formulaire d'inscription au plus tard le 8 novembre. Donc, les inscriptions sont déjà officiellement lancées. Je me demande si je n'avais pas... Non, j'ai parlé surtout de Facebook la semaine dernière, mais... Reportage qui m'a fait extrêmement rire cette semaine, qui a été présenté notamment à la télé de Radio-Canada. Et on demandait si les parents faisaient bien de laisser leurs enfants regarder Squid Game. Squid Game, qui est sur Netflix, qui est la nouvelle série qui connaît le meilleur début de tous les temps sur Netflix, parce que tout le monde veut regarder cette série-là. Est-ce que les enfants devraient regarder Netflix? C'est pas compliqué, c'est non. oui, les gens veulent se garrocher à regarder cette émission-là. Sauf que, salutations à Sherbrooke, il y a eu des élèves de sixième année à plein soleil. C'est une école primaire que j'ai personnellement côtoyée dans le temps que c'était dans la côte de la rue Montréal, dans le centre-ville. C'est maintenant dans le nouveau développement. Mais ils ont décidé de jouer à Squid Game dans la cour d'école. Donc, plutôt que de seulement jouer à 1, 2, 3 soleil ou à lumière rouge, lumière verte, tout dépendamment de la version que vous avez regardée, au lieu de juste faire t'éliminer, genre... sort du jeu, avec leurs doigts, ils faisaient des mouvements de fusil et pow, t'es mort. Probablement que les enfants, après ça, s'effondraient au sol, je sais pas. Fait que c'est... ça n'a pas de sens. Là, évidemment, la question s'est posée, comment ça se fait qu'il y a des parents qui ont laissé leurs enfants regarder Squid Game? Il y en a plusieurs qui ont dit que les enfants avaient regardé en cachette Netflix pour regarder Squid Game, même si il y a des avertissements mur à mur que cette émission-là est violente. Les avertissements d'usage en début d'émission, mais c'est violent. Il y a de la sexualité, il y a de la nudité, il y a de l'alcool, du tabagisme. Tu sais, on coche toutes les cases. Public mature seulement. T'sais, ça serait d'écouter ça serait de mettre en rafale tous les bouts de gore de Walking Dead puis dire oui, oui, les enfants de 8-9 ans peuvent regarder ça. Ben non. Fusillade, meurtre, scène graphique, hémoglobine, suicide. Squid Game met en scène 456 personnes endettées qui jouent à des jeux d'enfants dans l'espoir de gagner l'équivalent. C'est-tu des millions, c'est des milliards? En tout cas, en won, ce sont des milliards. En dollars canadiens, ça en fait quand même beaucoup. Là, j'ai comme un doute de combien ça fait, mais quand même. Fait que. Il y a un manquement quelque part si ton Netflix est pas configuré pour que les enfants ne soient pas soient capables de voir ce genre d'émission-là. Tu sais, à la télévision ordinaire, ça aurait été mis. La série aurait été diffusée passé 22 heures. Et ça n'aurait pas été non plus sur la télé généraliste. Ça aurait probablement été sur un poste comme Addict. Ou à la limite, ça aurait été à Canal D. Fait que tu sais, des gens partant, on peut comprendre que les parents veulent le regarder, c'est normal. On parlerait peut-être. Ah, ok, c'est pour ça, c'est 300. Ouais. Fait que c'est comme un 40 quelques millions de dollars canadiens, tu sais. Ce qui est quand même assez important. Les enfants n'ont pas à regarder ça, affirme Linda S. Pagani, psychologue, professeure à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse au CHUT Sainte-Justine. Je n'oserais pas diffuser cette série dans ma maison. Linda Pagani souligne que la pandémie s'est traduite par une soif accrue pour les séries aux films d'horreur après un public d'adultes auprès d'un public adulte. Or, les enfants éprouvent de la curiosité pour ce qui fascine les adultes. L'envie de copier, l'envie d'être comme les adultes. Mais c'est qu'à un moment donné, ça prend du gros bon sens. Justement, on ne ferait pas regarder des séries comme Game of Thrones, Walking Dead ou Breaking Bad, ne serait-ce que pour les sujets abordés et pour les images qu'on y voit. Tu sais, les films d'horreur au cinéma ont des codes 13, 16 et 18 ans. Ça serait de faire écouter La Purge à de très jeunes enfants en pensant qu'ils vont comprendre que c'est de la fiction. Pas nécessairement. Tu sais, il y a des cas en ce moment de jeunes enfants qui se réveillent dans la nuit parce qu'ils ont été traumatisés et parce qu'ils pleurent. On le dit, le Squid Game se veut une dénonciation du capitalisme et des inégalités présentes en Corée du Sud. Le cerveau des enfants n'est pas suffisamment mûr pour donner ce sens à cette violence montrée à l'écran. La pensée abstraite ne s'acquiert que vers l'âge de 14-15 ans. Pour un enfant, ce qu'il voit est réel, contrairement à l'adulte qui sait mettre des choses en perspective. Il faut apprendre aux parents que les enfants voient les choses beaucoup plus en noir ou blanc que les adultes qui comprennent le gris. Donc, oui, c'est violent. Au Québec, on est peut-être un petit peu plus permissif. Puis si c'était un film au cinéma, ça serait 16 ans et plus, violence explicite. Aux États-Unis, c'est mature 19+, et non négociable, même 21+, peut-être. Mais au Québec, ça serait un 16 ans et plus très violent. Justement, parce que plus jeune, on prend ça pour du cash et on ne comprend peut-être pas nécessairement les nuances. T'sais, on peut comprendre que c'est un film, que c'est une série, que c'est pas un documentaire. Mais ça reste quand même qu'ils voient ça, font comme « Ah, c'est de même que ça se fait. » Ben non, c'est pas de même que ça se fait. Il y a des exagérations, c'est une série. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de morts. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La série en tant que telle, oui, c'est un phénomène étrange. La finale est un peu particulière, soit qu'on a aimé ça ou on a haï ça pour mourir. Il y aura peut-être une possibilité de saison 2, du moins la série se termine qu'il pourrait y avoir un Squid Game 2. Mais ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Morale de l'histoire, faites pas écouter ça à vos trop jeunes enfants. Vous êtes des parents irresponsables si vous le faites. Bon, c'est Netflix, hein? Ça va rester là encore pour un bon bout de temps. Tu sais, les enfants de 8-9 ans peuvent attendre encore un 6-7-8 ans avant d'aller le regarder. Ouais, ce sera un 7-8 ans dans ce cas-ci pour un enfant de 8 ans. Qui pogne son 16 ans, ça va déjà être un peu moins pire. On s'arrête quelques instants. Au retour, on continue le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ. Vous écoutez sur les ondes de Chiz. Voilà, sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
La passe est captée par son receveur. Touché! Rouge et or!
Fort de deux victoires consécutives, le Rouge et or affronte ce dimanche le Vert et or de Sherbrooke en direct du stade TELUS de l'Université Laval. Ne manquez pas l'avant-match dès 12h30. Rouge et or contre Vert et or, ce dimanche 13h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses?
Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne.
Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Thank you. des tensions érotiques, un deal infini entre le yang et le yin, t'es le soleil qui lui sur mes wet dreams. Si t'as envie, je t'invite à danser en ligne. Sex machine. T'imprimes pour vivre tes parties intimes dans les rétines. Tu fais briller le bling bling dans les films où tu te shampouines en string platine. Sex machine.
Gab Paquet et Beat Sexu qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz et de CFAQ. On reste en télé. Un reportage très intéressant qui a été présenté hier sur les ondes de ICI Radio-Canada à l'émission Enquête, où on a décidé de faire la lumière d'une certaine manière, ou en tout cas, on a décidé d'analyser les propos, ou du moins d'analyser le personnage qu'est le controversé Didier Raoult. Si au début de la pandémie, il est arrivé comme étant le sauveur, comme étant celui qui avait trouvé le remède miracle à la COVID-19, ça s'est révélé extrêmement rapidement problématique. Mais aussi, ça s'est révélé rapidement comme étant un charlatan. La porte est entrouverte. Officiellement, oui, Didier Raoult a avancé qu'il y avait peut-être de l'espoir dans l'hydroxychloroquine lorsqu'il a fait des études plus ou moins détaillées et avec un protocole de recherche un petit peu nébuleux. Parce que parmi les gens qu'il a analysé, à qui il a donné l'hydroxychloroquine, probablement, il y avait un seul groupe témoin. Donc, normalement, quand on fait ce genre d'études-là pour voir si un médicament est efficace ou non, on a un groupe de gens qui vont recevoir le médicament et un autre groupe de gens qui vont avoir des placebos. Pour dire Raoul, c'est trop long, ça sert à rien, fait que pas de deuxième groupe, qui mange de la marde. Et donc, dans le groupe principal, chose qu'on a oublié et qu'on n'a pas mis dans les résultats finaux non plus, c'est qu'il y avait 6 personnes là-dedans qui ont soit quitté l'étude, soit qui sont morts. En fait, il y en a un qui est mort, il y en a 2 qui ont quitté, il y en a 2-3 qui sont ramassés à l'urgence. Puis il y en a un autre qui a juste arrêté parce qu'il était malade. Fait que tu sais, là-dedans, il y en a 6 important dans le résultat, mais qu'on a mis de côté aussi. On les comptera pas dans le résultat final. Et toujours dans le processus qui était établi à la base, c'est qu'on allait faire des analyses et des tests pendant 7 jours. Le problème, c'est que le titre final en montre seulement 6. Que s'est-il passé le 7e jour? On ne le saura jamais. à quel point les résultats étaient mauvais le septième jour pour ce qu'il décide de l'enlever complètement de ses résultats finaux pour ne prendre que le sixième jour en disant « Regardez comment que les résultats sont bons. » Qui plus est, dans le groupe de gens qu'il y avait dans son étude, c'était des personnes qui n'étaient pas à risque de mourir puisqu'ils étaient entre 20 et 55 ans. Donc, la tranche d'âge à ce moment-là dont le taux de décès est le moins élevé. Fait que tu sais, il y a une dizaine, voire plus, de points qui ne fonctionnent pas dans la première étude qu'il a publiée. Et cette étude qui a été publiée, ça a été dans le magazine d'un de ses chums qui travaille dans son laboratoire sur un autre étage. Et ce n'est pas une revue scientifique de renommée mondiale, internationale, comme London Medicinal, en tout cas, les plus importants. C'était pas un important, c'était un petit magazine, puis c'est publié par un de ses chums qui est chercheur et qui approuve. Fait que tu sais, il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas avec ce monsieur-là. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui qui ont dit que les protocoles de recherche, on s'en sac, le but, c'est de publier. Et comme d'autres professionnels ont dit, des scientifiques chercheurs émérites dans leur carrière publient environ 130, 140, 150 études au cours de leur vie qui ont bien été faites. Donc, à peu près aux 6 mois, un an, il y en a une ou deux qui sortent. Raoul, il a quelque chose comme 400. Puis, il n'est pas si vieux que ça. Là. Fait que, tu sais, il y a un non-sens à quelque part. Et plusieurs, justement, de ces études ont des protocoles louches, ont des manières particulières de faire. Il y a des résultats qu'on a fait une seule fois, des tests qu'on a fait une seule fois pour avoir des résultats qui, eux autres, « Ah, les résultats sont bons, parfait, ça va être ça. Fais-en pas d'autres, ça vaut pas la peine. » Fait que, ne serait-ce que de faire trois fois une expérience, les deux autres fois pour être sûr qu'on a les bons résultats ou que ça varie pas trop. Lui, il fait comme, ah, la première fois est bonne, c'est correct, on écrit ça, pis that's it. Fait que, tu sais, dans la catégorie charlatan, il y a lui. Et ça a été bien expliqué. Donc, il n'y a pas eu de dommages, hommages rendus à la télé de Radio-Canada, parce qu'on se souviendra que Stéphane Bureau s'était fait réprimander par l'Ombudsman de Radio-Canada de ne pas avoir challengé Didier Raoul, donc de l'avoir laissé jaser et de raconter sa bouette sur les ondes d'ici première comme si de rien n'était, comme si tout était beau et qu'il n'y avait rien de problématique, sans le remettre en question. Et même, on l'a vu dans le reportage, quand une journaliste lui demande « Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans les dans d'autres domaines. » Puis Didier fait comme « Oh, mais là! Oh! » Tu sais, qu'il rouspète en bon français. C'est un cliché, mais tu sais, il rouspète. C'est comme « Ah, oh, mais taisez-vous, laissez-moi parler, c'est moi qui parle. Ah, bah, bah. » Fait que tu sais, en plus d'être une mauvaise personne sur le plan relation avec les autres. Il y a des gens qui disent ils ont été intimidés puis ils sont fait crier après par. Autant que depuis ce temps-là, justement, l'Institut qu'il a fondé à Marseille, l'Institut de recherche, l'Institut s'est dissocié de lui-même, de son fondateur. Son contrat n'a jamais été renouvelé, n'a pas été renouvelé techniquement à la fin de 2020. Je ne sais pas si ça a été fait depuis, mais pour l'instant, à fin 2020, il n'avait pas été renouvelé. L'hydroxychloroquine elle-même, la compagnie qui produit ce médicament-là, n'a pas donné suite aux commandes qu'il faisait pour les craintes qu'il allait en donner à du monde comme ça. Que ça s'enlignait pour qu'il donne lui-même l'hydroxychloroquine à du monde, que ça soit pas sur les étagères de la pharmacie ou du moins l'autre côté du comptoir de la pharmacie. qui voulait lui-même administrer ça. Fait que eux, pour ne pas avoir de représailles, parce qu'il y a eu une gang d'une quarantaine de scientifiques qui ont analysé toutes les études, ou en tout cas la plupart, si c'est pas toutes les études qui étaient sorties pour dire si c'était bon, si c'était pas bon, si c'était bon, si c'était pas bon. Et la tendance. Donc, une étude empirique, ça le bon terme, qu'on a pris toutes les études faites, on les a toutes regardées, on les a toutes analysées, et on est venu à la conclusion que le consensus dit que c'est nocif et que les chances de développer des complications si on a pris de l'hydroxychloroquine en prévision de ne pas attraper la COVID et qu'on attrape la COVID, ça donnait quelque chose comme 24% plus de chances, sauf erreur, de développer des complications ou d'avoir encore plus de problèmes lorsqu'on contracterait la COVID. Fait que ce monsieur-là est dangereux. Tranquillement, pas vite, il a de moins en moins de crédibilité, même selon lui, il est l'imminence et il est Jésus. Mais dans les faits, il est de plus en plus problématique. Donc, on n'a pas été tendre avec Didier Raoult. Il a refusé les demandes d'entrevue de l'émission d'enquête, donc il n'apparaît pas en tant que lui-même à répondre aux questions des journalistes collaborateurs de l'émission. Mais elle est tout de même disponible en rattrapage sur ici2.tv et sera en rattrapage également sur les ondes de ici RDI pendant la fin de semaine. Les heures varient quand même, mais sinon, valeur sûre, ici2.tv. Le problématique Didier Raoult, le controversé Didier Raoult, c'est comment il avait intitulé l'épisode officiellement? C'est ça, le controversé Didier Raoult, diffusé hier soir sur les ondes de ici Radio-Canada Télé. On s'arrête quelques instants. Barry Paquet, Roberge, en musique sur les ondes de chez CFAC.
Shake it all off. All that glitters in-
De retour au deuxième service. Avant de conclure l'émission de cette semaine, ça a été publié au début de celle-ci. La planète 9. Peut-être est-ce que vous l'avez vu passer. Elle est traquée de toutes parts. Pourtant, elle n'a encore jamais été observée. Alors, existe-t-elle vraiment? On se souviendra que dans les dernières années, on a révisé la définition du mot planète. Donc, la définition scientifique d'une planète qui faisait en sorte que Pluton, la 9e planète, n'était plus reconnue comme étant une véritable planète, mais plutôt comme une planète naine. Donc, elle avait été recalée. Donc, la phrase « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète » pour se rappeler des phrases, ça se terminait sur « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. » C'est plate de même. Ils l'ont modifié pour « navette », mais c'est vraiment poche. Fait que Pluton, techniquement, n'est plus une planète selon la définition scientifique. Par contre, il y aurait réellement une 9e planète à quelque part. Elle se cacherait aux confins de notre système solaire, ce qui a mis la puce à l'oreille de certains astronomes. Les orbites particulières de plusieurs objets de la ceinture de Kuiper pourraient peut-être laisser présager que notre système solaire, donc notre Soleil à nous, aurait fait approcher un 9e élément. Toutes les hypothèses y passent, même celles qui avancent que cette 9e planète serait une exoplanète capturée par notre système solaire. Voilà la petite histoire que j'avais entendue. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Donc, une planète qui passait par là, on va dire ça comme ça, mais qui a été intriguée par nos orbites. Je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, elle se rapprocherait de notre système solaire. Les simulations d'évolution de notre système, quant à elles, peinent à expliquer la configuration de ce petit coin d'univers parce que c'est extrêmement loin. Il manque des informations selon des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Arizona. Ils suggèrent qu'une planète de la taille de notre Terre ou un peu plus petite comme Mars pourrait être née parmi les géantes gazeuses, donc autour de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, avant d'être poussé bien au-delà de l'orbite de Neptune. Donc, même qu'il y aurait eu une 9e planète, selon cette définition-là, mais qu'elle a été, pour une raison ou une autre, expulsée du système. Selon les astronomes, il y a quelque chose d'étrange dans la configuration actuelle de notre système solaire. Il y a de l'espace pour une 9e planète, mais elle n'est pas là. Ils soutiennent qu'il est peu probable que la partie externe de notre système solaire se compose de 4 planètes géantes, puis rien pantoute, sauf des planètes naines. Donc, que normalement, entre Saturne et Neptune, il aurait peut-être pu y avoir quelque chose là. Si je comprends bien, leur simulation montre qu'il devrait effectivement exister des planètes d'autres tailles. Donc, c'est pas normal que ça passe d'une très grosse à une toute petite. Au moins concernant les premiers stades du développement d'un système solaire, ensuite celle-ci a pu rejoindre les planètes naines ou même être littéralement expulsée vers l'espace interstellaire. Que s'est-il passé? On ne le saura peut-être jamais. On ne sait jamais. C'est ça qui arrive. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile. Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu aimes te lever le cœur avec des dégueulasseries de dépanneur?
Tu te régales des joyaux oubliés de la culture populaire?
Tu survoles avec intérêt les nouvelles les moins intéressantes de l'actualité.
Ça tombe bien, nous autres aussi.
Donc en ligne tes flûtes puis allume ta radio.
Tous les mardis de la vie à 21h.
Les toastés.
Pour ta dose de la semaine en niaiserie multigraine.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Bordel en réveilleur, Zinchard. Boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Guillaume Bédard qui vous parle au micro en ce vendredi 15 octobre 2021. J'ai l'honneur, le plaisir et l'extrême joie d'être en compagnie de Sarah Manzano. Bonjour Sarah.
Allô Guillaume, mon Dieu, tu vas me faire rougir.
Oh Bélio, ça me fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va très bien, toi?
Ça va, ça va. Écoute, aujourd'hui, on a quand même une journée plutôt chargé en termes d'actualité, ce qui est rarement le cas le vendredi, mais on va le prendre. On va le prendre. On va parler de plusieurs choses. On va parler notamment beaucoup des grèves dans les CPE. Qu'est-ce que ça veut dire pour le modèle québécois, pour l'État québécois? On sait qu'il y a une annonce de la ministre responsable, présidente du Conseil du Trésor là-dessus. On va également parler un petit peu de COVID-19, vous faire le petit tour d'horizon. Il y a aussi eu des annonces du gouvernement. On va parler de crise du logement et d'itinérance. On va faire le lien avec la politique municipale, particulièrement ici à Québec, des déclarations de Bruno Marchand, entre autres, de Québec Fort et Fier. Et